Nous écoutons la lecture biblique. Nous avons deux lectures, Jérémie chapitre 20, 10, versets 10 à 13, et le psaume 69. Donc, Jérémie chapitre 20, versets 10 à 13. Car j'apprends les mauvais propos d'une multitude, effroi de tous côtés. Annonçons-le. Tous mes amis m'observent pour voir si je vais chanceler. Peut-être se laissera-t-il duper et nous l'emporterons sur lui. Mais le Seigneur est avec moi comme un héros brutal. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne l'emporteront pas. Ils auront bien honte de ne pas avoir réussi. Ce sera une confirmation pour toujours. On ne l'oubliera pas. Le Seigneur des armées sonde le juste. Il voit les reins et les cœurs. Que je voie ta vengeance contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez pour le Seigneur. Louez le Seigneur, car il délivre le pauvre de la main des mauvais. La seconde lecture, psaume 69. Car c'est pour toi que je supporte les outrages, que la confusion me couvre le visage. Je suis devenu un inconnu pour mes frères, un étranger pour les fils de ma mère. Car la passion jalouse de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'outragent tombent sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car ta fidélité est bonne. Selon ta grande compassion, tourne-toi vers moi. Les pauvres voient, ils se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car le Seigneur entend les pauvres, il ne méprise pas les prisonniers. Que le ciel et la terre te louent, les mers et tout ce qui y fourmille. Amen.
Et notre troisième texte qui servira de support à notre méditation, qui est toujours la lecture du jour, dans Matthieu chapitre 10, versets 26 à 33. Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux moineaux pour un as? Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre, indépendamment de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur. Vous valez bien plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, ce passage de Matthieu que je vous propose de méditer nous invite à ne pas avoir peur. Je le cite rarement, mais le pape Jean-Paul II avait insisté également sur ce thème en 1986. Il en avait presque fait un slogan, juste avant la chute du mur de Berlin. N'ayez pas peur. Ben, Matthieu passe pour être l'évangile par excellence de cette nouvelle église chrétienne naissante, de l'envoi des disciples dans le monde, à commencer par l'envoi des 12 pour porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, dans le monde. Mais revenons pour commencer sur le contexte de l'écriture de cet évangile de Matthieu. On le date habituellement des alentours de l'année 80. À cette date, souvenez-vous, les légions de Titus avaient soumis la Palestine, incendié et détruit le temple de Jérusalem. C'était pas rien. De ce fait, Le service sacrificiel, qui constituait la raison d'être principale du temple, avait cessé. Les Sadducéens avaient perdu leur rôle dans la vie du peuple juif. Les Zélotes, ces partisans de la résistance violente à l'occupant romain, avaient été décimés. Ils n'existaient plus, ni politiquement, ni socialement. Qui restait-il donc ? Restaient les pharisiens, qui pensaient que seul le respect des traditions et la stricte observance de la loi pouvaient sauver le judaïsme et surmonter cette nouvelle catastrophe. En substitut des sacrifices devenus impossibles puisque le temple n'existait plus, l'observation et l'étude de la loi pouvaient seules maintenir la réalité de la vie d'Israël. Il n'était plus question de pluralisme dans la pensée juive, comme c'était le cas jusque-là. Les pharisiens restaient les seuls dépositaires de ce qui restait à Israël de pratiques religieuses. Leur influence était hégémonique. La liste des textes sacrés, acceptables, canoniques, fut alors arrêtée. Les pharisiens réglementaient également, et c'est relativement nouveau, l'interprétation des traditions anciennes ainsi que des textes promus ainsi canoniques. Ils finiront même, et c'est une évolution qui peut nous sembler assez habituelle, sinon logique, par introduire dans le service synagogal une prière contre les hérétiques. Tiens, on a vu cela depuis. Ils vont pratiquement interdire l'accès à la synagogue de tous les opposants, et en particulier, bien sûr, des chrétiens. À la fin du 1er siècle, le judaïsme sera devenu un judaïsme pharisien. Les épîtres de Paul, et en particulier l'épître aux Galates, que nous avons eu l'occasion d'étudier au travers des études bibliques toute cette année, nous présentent déjà quelques 30 ans plus tôt, donc avant la destruction du temple, bien sûr, les prémices de cette évolution. Les tout nouveaux chrétiens d'alors commencent par se déchirer entre eux. L'affirmation de la différence commence à l'intérieur même de leur propre famille. Se séparer ou pas de leur famille sociologique, les Juifs, voilà un débat crucial. Et il entraîna des luttes féroces. Avoir ce courage de la séparation, ça n'était pas rien. Nous reviendrons sur ce point dans un moment. Les chrétiens, se séparant de plus en plus nettement des pratiques des pharisiens, notamment par la présence de plus en plus forte des gentils, des non-juifs, seront non seulement exclus des synagogues, mais encore persécutés pour avoir reconnu en Jésus le Messie. Or, les juifs orthodoxes avaient obtenu de Rome le privilège extraordinaire de n'avoir pas à adorer les dieux romains et en particulier l'empereur. Le fait que les chrétiens soient rejetés de la communauté juive les mettait donc hors la loi s'ils n'adoraient pas l'empereur. Et les pharisiens ne se faisaient pas faute de le proclamer à tous les échos. Ben, cela avait des conséquences graves pour ces chrétiens, jusque pour leur survie. Ils risquaient tout simplement la condamnation par les Romains et la mort. L'exhortation de Matthieu, « N'ayez pas peur », prend évidemment une résonance particulière dans ce contexte. Il faut se le remettre en tête. Il est assez probable que nombre de ces nouveaux chrétiens aient alors hésité à proclamer leur foi sur les toits en terrasse, comme nous dit le texte, c'est-à-dire sur la place publique au grand jour, au vu et au su de tout le monde. Ce n'était pas une mince affaire en ce temps-là que de proclamer sa foi. Aller à l'encontre de la pensée dominante dans le peuple juif, au moins pour les judéo-chrétiens, ne plus braver les autorités, se mettre au banc de la société et même aller au-devant de poursuites judiciaires pouvant aller jusqu'à la mort. Ce n'était pas un mince courage que cet évangile leur demandait. Le fait que l'évangile de Matthieu leur disait que le Seigneur était avec eux ne changeait pas grand-chose à leur condamnation terrestre, même si la plupart d'entre eux attendaient le retour du Christ dans un avenir proche, même avant la fin de leur vie, ce que nous avons aujourd'hui un peu de mal à imaginer, bien sûr. Mais cette année, nous célébrons le 500e anniversaire de la Réforme. Cela vous a probablement pas échappé. Des 95 propositions apposées par Martin Luther, selon la porte, sur la porte de l'église de Wittenberg, comme nous l'indique la tradition protestante. Le fait que cette réalité formelle soit remise en cause par les historiens aujourd'hui ne change rien à la portée symbolique et à ses répercussions historiques. On peut aisément trouver des analogies, même s'il faille s'en méfier, entre les deux situations et même risquer un parallèle. L'Église, dominante sur le plan spirituel et assez largement politique du début du XVIe siècle, imposait sa propre lecture de l'Évangile, comme les pharisiens imposaient la leur à la fin du Ier siècle. Ces dogmes, dont beaucoup étaient issus de la tradition ecclésiastique et non des textes bibliques, étaient revendiqués comme tels. C'était, pour oser une comparaison, comme les pharisiens de la fin du Ier siècle pour le judaïsme de cette époque. C'était notamment le cas, je vous le rappelle, de la justification par les œuvres, ayant abouti au fameux trésor des mérites de l'Église, surplus de bonnes actions faites à des saints qui dépassaient ce qui était nécessaire pour leur propre salut, que l'Église récupérait pour en faire bénéficier des pécheurs ordinaires. De là était apparue la création du purgatoire, puis des indulgences permettant d'en sortir plus vite et d'en faire sortir ses ancêtres défunts. C'était toute une mécanique, une construction de l'Église de l'époque. D'où la vente de ces indulgences au temps de Martin Luther, je vous le rappelle, principalement pour financer la construction contemporaine de Saint-Pierre de Rome. Tout cela était institué en dogme et il était obligatoire d'y croire, faute de quoi on était traité d'hérétique. Tiens, les Juifs avaient fait une prière contre les hérétiques aussi. Excommuniés, voire pire encore. Il semble bien en effet que le parallèle puisse être fait avec les pratiques des pharisiens de la fin de ce premier siècle. Martin Luther, ordonné prêtre en 1507, moine augustinien, reçu docteur en théologie en 1512, professeur d'enseignement biblique à l'université de Wittenberg, était parfaitement inséré au début du XVIe siècle dans la société et les instances ecclésiastiques de son temps. Il ne souhaitait sans aucun doute pas sortir de sa famille catholique romaine. Sans doute, sa conscience de l'impossibilité de gagner son salut par ses propres œuvres était déjà la lecture de l'Épître aux Romains avait glissé le doute dans son esprit quant à la justification par les œuvres et partant du purgatoire et des indulgences. Mais il n'était pas question pour lui, au début, de sortir de sa famille spirituelle dans laquelle il était parfaitement inséré, mais seulement de la réformer. Il a fallu que le niveau de désaccord monte d'un cran et devienne inacceptable pour qu'il réagisse publiquement en 1517, lorsque le pape Léon X, pour financer Saint-Pierre de Rome, prône la vente des indulgences, que le dominicain Tetzel proclame « Sitôt que sonne votre obole, du feu brûlant, l'âme s'envole, du purgatoire bien sûr, en parlant des indulgences et du purgatoire, c'en est trop. » De plus, le haut clergé vivait dans une hypocrisie criante et scandaleuse. Martin Luther s'est alors, voilà la rupture, décidé à parler, à crier même son désaccord sur la place publique. Ce furent ses fameuses 95 thèses. Mais il aurait pu encore se rétracter, rentrer dans le rang. Léon X le lui ordonne par la bulle exergé dominée. Luther la brûle en place publique, bravant sur les toits et terrasses l'autorité du pape. Il est excommunié. C'est seulement à ce moment-là qu'il a le courage de se séparer de sa communauté, même s'il avait autour de lui une autre communauté d'intellectuels qui pensaient comme lui et le soutenaient. Il n'était pas quand même entièrement isolé. Mais de même qu'au Ier siècle, l'autorité de l'empereur de Rome entrait en ligne de compte, là encore, la puissance politique allait être mise à contribution. L'autorité politique de l'époque en Allemagne s'appelait Charles Quint, nouvellement nommé empereur du Saint-Empire romain germanique, en 1519. Il s'agissait soit de faire taire Martin Luther, soit de le mettre au banc de l'Empire. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mettre au banc de l'Empire, pour la plupart d'entre nous, cela ne signifie pas grand-chose de grave. Mais en réalité, ce n'était pas rien. À cette époque, cela signifiait que N'importe qui était autorisé à tuer celui qui en était victime, sans être le moins du monde inquiété, et sans doute bien au contraire. C'était donc une condamnation à mort par n'importe qui, par la populace. Sommé de se rétracter à la diète de Worms, il demande une nuit de réflexion, puis fait cette réponse restée célèbre et qui se rapproche de notre texte de Matthieu. « Votre Majesté sérénissime et vos seigneuries m'ont demandé une réponse simple. La voici sans détour et sans artifice. À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont trompés souvent et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide. Il ne sera sauvé que par la protection d'un prince, l'électeur de Saxe Frédéric III, dit le sage, qui l'enlève à sa sortie de la diète pour le protéger, sinon il aurait été tué sans aucun doute. N'ayez pas peur. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, proclamez-le sur les toits en terrasse. C'est ce qu'a fait Martin Luther et à sa suite tous les novateurs évangéliques, puis les réformateurs au péril de leur vie, tout comme les premiers chrétiens. Mais cela a pris du temps, ne s'est pas fait sans difficulté et hésitation, et sans surtout se couper de sa communauté, c'est ce premier courage qui a entraîné tous les autres. Et aujourd'hui, quels enseignements pouvons-nous en tirer ? Ben tout d'abord, il y a des lieux dans notre monde où, au siècle dernier, et maintenant, le fait de se dire chrétien ou de protester contre diverses formes de totalitarisme menait à la mort, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, le fait de se proclamer chrétien dans nombre de pays, notamment au Proche et au Moyen-Orient, fait courir le même genre de risque mortel. Il faut en être conscient. Les chrétiens ont même quasiment disparu depuis seulement ces toutes dernières années du foyer historique de la première propagation du christianisme du Moyen-Orient. Mais nous-mêmes, dans notre société occidentale, en France, dans la région parisienne, ouais, il est clair que nous ne risquons pas la mort en Europe, ni même de quelconque poursuite. Et cependant, beaucoup d'entre nous n'osent pas se dire chrétiens, protestants. Pourquoi donc ? Dans l'exploration que nous avons faite de ce qui s'était passé au 1er siècle puis au 16e, la toute première barrière que provoque la crainte, c'est de se séparer de sa communauté, de ce que peut penser la majorité qui nous entoure. C'était le cas des premiers chrétiens vis-à-vis des pratiques du judaïsme, leur famille d'origine. C'était le cas des premiers novateurs évangéliques au 16e siècle vis-à-vis de l'Église catholique romaine. Le psaume 69 que nous avons lu aussi ne nous dit pas autre chose de ce malaise profond de la séparation d'avec sa communauté. Le psaume nous dit « Je suis devenu un inconnu pour mes frères, un étranger pour les fils de ma mère. » Cette première rupture revêt une grande importance. Peur diffuse mais bien réelle de ne pas être en phase avec notre environnement, d'être décalé, moqué, montré du doigt, de se couper d'une partie de sa communauté, d'avoir à subir des questions auxquelles nous serions incapables de répondre, de perdre la face, d'être, pour employer une expression actuelle, ringard. La première de ces craintes est donc de se couper de sa communauté, de sa famille, de ses proches. Crainte peu convaincante aux côtés de celle que nous venons d'évoquer ? Rien n'est moins sûr. Je n'en veux pour preuve que la condamnation des anciens. Oh, ça remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, même avant. Les anciens Grecs en particulier, pour lesquels l'exil, l'ostracisme, était une peine particulièrement redoutée, solennellement prononcée. C'était l'une des pires des peines prononcées. De quoi s'agissait-il d'autre que de couper le condamné de sa propre communauté, de le priver de ce soutien social sans lequel aucun être humain ne peut vivre ? Cette crainte est donc bien réelle et ne doit pas être moquée ni minimisée. Il est vrai que certains de ceux qui proclament une foi agressive aujourd'hui nous mettent parfois mal à l'aise pour leurs excès, voire leur intolérance, et obéissent à des pratiques que nous pouvons juger un peu ridicules, excessives, peu respectueuses d'autrui. Et nous sommes tentés de les rejeter, eux aussi. C'est vraiment là une source de division. Alors, quelle ligne tenir entre le silence pleutre et une affirmation agressive et intolérante? Ce n'est pas si facile à définir. La laïcité que nos ancêtres du début du siècle dernier ont largement soutenue nous donne des pistes. Grâce à elle, nous devrions, théoriquement du moins, être capables de dire qui nous sommes en respectant les croyances et les opinions des autres, ce qui n'empêche pas de les affirmer, mais sans agressivité. C'est ce que les anglo-saxons appellent assertiveness, que l'on traduit, mais le mot n'existe pas en français, par assertivité. Dire ce que l'on pense de le cheminement qui a été le sien, pleinement, mais sans agresser l'autre, en le respectant dans ses propres croyances, ses pensées, sa personne, toute une discipline qui n'est pas si facile à appliquer. Et on risque cependant toujours dans son entourage, dans sa société, dans sa propre famille parfois, d'être critiqué, voire moqué, mis à l'écart. Ah, ce n'est pas comparable tout de même avec ce qu'ont dû subir nos ancêtres, ou ce que subissent d'autres chrétiens, et pas seulement eux, bien entendu. Mais cette barrière est souvent suffisante pour nous arrêter. Il faut alors penser que notre témoignage est à ce prix. Il n'est pas question d'être agressif, excessif, mais simplement de témoigner du parcours que chacun de nous a pu avoir, de l'exprimer aussi simplement que nous sommes capables de le faire, afin que ceux qui nous entourent puissent recevoir ce témoignage fraternel et de l'entendre, entendre au sens de comprendre, bien sûr. Semer, le reste ne dépend pas de nous. Mais une graine semée à tout vent peut germer de façon inattendue dans un temps et dans un espace qui pourront nous surprendre. Une parabole nous le rappelle d'ailleurs. Et les catachètes le savent bien. Ceux d'entre nous qui l'ont vécu le savent bien. C'est mon cas, bien sûr. D'anciens capitaines, d'anciens catéchumènes, pour lesquels, je ne crois pas que ce soit un lapsus significatif, d'anciens catéchumènes pour lesquels on ne savait pas si le moindre témoignage avait pu les toucher pendant le catéchisme, sont parfois retrouvés quelques années plus tard. Et très souvent, ils manifestent à leur tour un souvenir très vivace de ce qu'ils avaient vécu avec nous, largement à notre insu. La graine avait pu germer, mais il fallait bien pour cela que le témoignage ait été porté. C'est, le texte de Matthieu nous le rappelle, le moins que nous puissions faire. Amen.